RFI. Le Monde à midi.
On va revenir maintenant sur l'information des dernières heures, ces droits de douane fixés par Donald Trump au cours d'un discours savamment mis en scène durant lequel le président américain s'est réservé le droit d'attribuer des bons points, de désigner ceux qu'il a appelés les gentils, sans qu'il y ait pour autant le moindre lien avec le taux de taxe imposé aux différents pays. Bonjour Jean-François Di Meglio.
Bonjour.
Économiste, vous présidez l'Institut de recherche Asia Centre. Le coup est particulièrement dur pour la Chine, qui faisait déjà l'objet de 20% de droits de douane, auxquels il faut ajouter 34% supplémentaires. Alors, depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, beaucoup d'observateurs préviennent que le président américain a bien la Chine dans le viseur, qu'à un moment ou à un autre, il va hausser le ton face à Pékin. C'est la première étape, selon vous ?
Oui, alors c'est déjà la deuxième étape par rapport à Trump 1, mais c'est aussi une continuité avec la politique américaine depuis que, rappelez-vous, Obama avait tenté de rallier tous les pays d'Asie et du Pacifique hors Chine pour faire un traité commercial. C'était déjà bien destiné à réduire le déficit que les États-Unis avaient avec la Chine. Donc l'étape 2, Trump fait suite à une politique assez continue maintenant. On est en train de revenir sur tout ce qui a fait les grands jours de l'OMC avec l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001. Donc c'est 25 ans d'histoire commerciale qui sont en train de s'achever.
Alors ces nouveaux droits de douane, ils concernent vraiment toute la région, près de 50% pour des pays comme le Laos ou le Cambodge. Est-ce qu'ils payent selon vous leur lien avec la Chine ?
Naturellement. C'est ce qu'on a appelé pendant quelque temps Chine plus 1. En fait, il y a eu deux phénomènes qui faisaient de ces pays les nouvelles vedettes, c'est-à-dire que, craignant des augmentations de droits de douane, les investisseurs chinois sont allés dans ces pays pour produire déjà à coût plus bas, naturellement, et puis aussi pour contourner la politique de droits de douane américaine. Et puis l'autre effet, eh bien, c'est naturellement que ces pays qui ont des taux de croissance intéressants, qui se relèvent assez bien du Covid, on a des taux de croissance entre 3 et 5%, attirent des investisseurs d'un peu tous les pays et redeviennent compétitifs. Donc c'est le Chine plus 1, c'est-à-dire que naturellement on ne peut pas omettre la Chine dans les relations commerciales, plus 1, c'est toute cette région-là, et souvent on a des investisseurs qui sont à la fois en Chine et dans ces pays-là, quand ce ne sont pas des Chinois eux-mêmes qui sont en Chine et dans ces pays-là.
D'ailleurs, personne n'échappe à ces nouvelles taxes dans toute la région, 36% pour la Thaïlande par exemple, je n'avais pas encore cité ce pays. Est-ce que c'est la fin de la relation plutôt privilégiée entre les États-Unis et les pays d'Asie du Sud-Est, selon vous ?
Alors, quand on dit relations privilégiées, vous voyez bien qu'on dit deux choses à la fois. On dit relations commerciales, c'est ce dont on vient de parler jusqu'ici, et puis c'est quand même la relation géostratégique. Or, on imagine pas un instant aujourd'hui que les conséquences de cette guerre commerciale ou de cette nouvelle attitude commerciale des États-Unis puissent avoir un effet symétrique sur les relations géostratégiques, c'est-à-dire que les États-Unis ne seraient plus proches de ces pays qui ont toujours été le contrepoids pour les États-Unis à l'importance de la Chine dans la région.
D'alliés stratégiques encore comme le Japon ou la Corée du Sud, par exemple ?
Mais oui, donc il y a un certain nombre de traités de défense, il y a un certain nombre de présences militaires américaines dans la région, il y en a naturellement en Corée et au Japon, et puis il y a régulièrement le contrôle que les Américains souhaitent faire de la mer de Chine du Sud, le passage du détroit de Malacca qui est extrêmement important, y compris pour l'approvisionnement en toutes sortes de produits finis pour des pays qui sont des alliés des Américains jusqu'ici. Donc il va y avoir à un moment ou à un autre un éclaircissement en réalité de ce bras de fer qui s'est mis en place. On y croit naturellement, on achète ce que nous dit Trump, il y a certainement une volonté de remettre les pendules à l'heure si on veut, mais on ne peut pas non plus renverser totalement la table comme il semblerait que Donald Trump souhaite le faire.
Alors, il existe des liens entre certains de ces pays. Est-ce que vous pensez que ce coût commercial pourrait contribuer à rapprocher, par exemple, la Corée et le Japon de la Chine ? On a vu il y a quelques jours que leurs ministres du commerce s'étaient rencontrés pour parler d'un accord de libre-échange.
Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, tout le monde est un peu en train de perdre la boussole, hein. C'est de ça qu'il s'agit. À quel moment est-ce qu'on retrouvera le Nord, si j'ose dire, on ne sait pas. Mais vous faites allusion à effectivement une conversation sur le commerce entre ces trois pays, la Corée, le Japon et la Chine. Ce sont des partenaires extrêmement importants. La Chine est le premier partenaire du Japon. Et puis, par ailleurs, vous avez le RCEP. Le RCEP, c'est Region Commercial Economic Partnership. C'est quelque chose qui est entré en vigueur il y a 3 ans maintenant et qui regroupe un certain nombre de pays, dont la Chine, mais pas les États-Unis, et qui voit son importance dans le commerce international de plus en plus important. Le seul pays de la région qui ne soit pas inclus, c'est l'Inde. Et la Chine profite naturellement de ce rapprochement commercial entre tous ces pays. Donc, ce que risque, si on peut dire, la politique américaine dans ce jeu, c'est effectivement de jeter dans les bras de la Chine, qui est déjà très puissante commercialement dans la région, un certain nombre de pays qui avaient tout intérêt à rééquilibrer leurs relations. C'est peut-être aussi une façon de mesurer l'importance de l'alliance stratégique avec les États-Unis pour ces pays et de voir jusqu'à quel point ils sont prêts à payer le prix. Et puis n'oublions pas aussi le consommateur américain. Il va y avoir un effet sur le consommateur américain. Jusqu'où, encore une fois, le consommateur américain peut-il supporter ces augmentations ?
Merci Jean-François Di Meglio d'avoir été en ligne avec nous. Économiste, je rappelle que vous êtes le président de l'Institut de recherche Asia Centre. Merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir.